그. 이 땀은 머리 있는 불레 바바.
예, 이 땀은 머리 있는 불로 먹공. 먹공 몰라, 문용아 봉일랑 울렁은 연사. 예, 이 땀은 머리 있는 불로 먹공. 먹공 몰라, 문용아 봉일랑 울렁은 연사. 에이 담은
Biaouluazen, c'est sur les chemins, de la pensée africaine, et puis c'est le cheminement que nous avons entamé il y a quelques mois maintenant avec toi, Tinéman. Bonjour à toi.
Bonjour.
Alors nous poursuivons ce chemin des pensées, des philosophies africaines, et aujourd'hui nous avons un compagnon de chemin, un compagnon de route avec nous. En quelques mots, peux-tu nous présenter ce marcheur qui vient passer cette émission avec nous?
Je ne me permettrai pas de le présenter, je vais simplement dire que je l'ai rencontré sur Verneuil. Et tu sais que je vis à Verneuil, et puis la nature m'a permis de rencontrer ce frère à Verneuil. Il m'a semblé suffisamment intéressant pour qu'on vienne partager ce moment avec lui, et c'est pour ça que je l'ai convié à ce bout de chemin. Je lui laisse à lui-même l'occasion de se présenter et qu'il nous dise ce qu'il est venu partager avec nous. Peut-être que ce sera un prétexte, comme je te l'ai dit avant, de penser, de méditer sur un ensemble de choses qu'il porte et qui rejoignent notre cheminement autour de la pensée et de la philosophie africaine.
Très bien, bonjour à toi Roland. Peux-tu du coup te présenter un petit peu, expliquer à nos auditeurs qui tu es?
Ben, merci. Déjà, je remercie l'équipe de production de la radio pour cette invitation. Ben, je suis Roland Kéasso, styliste modéliste, travaillant dans la ville de Paris.
Quand on parle de stylisme, modélisme, on parle de quoi précisément pour les gens qui ne sont pas du milieu ou qui seraient éloignés de ces notions
de mode? Nous sommes surtout une radio rurale, il faut dire.
Stylisme modéliste, c'est dans le cadre de la mode. Je suis créateur de mode. Voilà, je crée des modèles. J'ai un petit atelier à Paris, à Château-Rouge, avec des couturiers qui confectionnent voilà, mes créations, mes modèles. Voilà, si ce n'est que ce début d'explication.
Sur le stylisme, j'imagine que on fait ses classes de ci, de là, qu'on est inspiré de tout un tas d'univers, de tout un tas de choses. Quelles sont un petit peu tes sources d'inspiration?
Oh, déjà, je ne sais pas s'il faut commencer. Il faudrait commencer par
peut-être la formation.
Introduire mon parcours. Dans un premier temps, en 2001, j'intègre l'Académie de design en Afrique du Sud. Comme styliste créateur. Voilà, je fais 5 années d'études. Et ensuite, je travaille comme stagiaire au premier atelier de la présidente des stylistes sud-africains en 2006, Sista Bax Design. Et à partir de là, je prends mon envol. Je prends mon envol, je participe à des défilés de mode, je crée des modèles, je participe à la South African Fashion Week en 2007 et je participe à des défilés de mode, à des festivals de mode dans lesquels je fais remarquer mon style. Voilà. L'inspiration, elle peut nous venir de tout et de partout. Vous savez, être styliste, c'est un créateur. Et lorsqu'on parle de créateur, de création, c'est, je crois que les personnes qui font à peu près dans le même sens comprendront un peu cette logique, c'est-à-dire on peut créer à partir de rien. Et nous n'avons pas besoin d'être dans un endroit spécifique pour avoir une inspiration, une créativité.
Mais si tu permets, Roland, moi, je voudrais te poser la question parce que j'ai souvent échangé avec toi dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, on dira, des craies ou alors une démarche prédominante qu'on retrouve peut-être une façon de travailler qui t'est déjà propre? Parce qu'il me semble que même si on peut s'inspirer de tout et de tout partout, il y a quand même, on pourrait dire, la touche de l'artiste. Est-ce que si on te demandait de dire en quoi consiste ta touche personnelle à grand craie, tu ne peux pas peut-être toute la présenter ici, qu'est-ce que tu nous diras?
Bon, parler de touche personnelle, je dirais non. Vous savez que le monde a des saisons. Déjà ici, au niveau de la France, on a l'été, on a l'hiver, l'automne, le printemps. Et les créateurs européens créent en fonction des saisons. On crée en fonction des saisons, on a l'hiver, on a l'été qui arrive. Il faut présenter, il faut créer, préparer des collections pour la saison d'été. Et lorsqu'on parle d'été, c'est une saison à laquelle les populations sont beaucoup plus vivantes, plus actives. C'est une saison avec c'est des créations avec des tenues légères. On se sent beaucoup plus vivant, beaucoup plus en période d'été. On crée en fonction des saisons. Le style, on le fait en fonction des saisons de l'année. Voilà.
Et tu me permets, je ne vais pas faire l'échange avec toi, mais ce que je voulais savoir, c'est en tant qu'Africain, puisque nous sommes là autour des chemins de la pensée africaine,
oui.
Il me semble que parfois tu utilises les matériaux africains. Comment est-ce que tu parviens justement dans cette logique créatrice qui doit intégrer, je dirais, une saisonnalité occidentale? Comment est-ce que tu parviens parfois à partir des matériaux africains, les associer aux matériaux occidentaux pour faire des créations et jongler avec le temps? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a de la difficulté? S'il y a de la difficulté, comment tu parviens à la contourner? Est-ce que le retour, c'est-à-dire est-ce que au niveau du public, les publics sont réceptifs? Et puis, peut-être pour sortir de l'Occident, en Afrique même, comment est-ce qu'on regarde ton travail? Comment est-ce qu'on regarde le travail de tes pairs?
Il faut dire qu'en Afrique, lorsque je suis en Afrique, j'ai un style de création. Lorsque je suis en France, j'ai un autre style également. Parce qu'il faut dresser et baser son inspiration en fonction du milieu dans lequel on se trouve. On ne va pas faire des créations à base de tenues de pagne si on est à Paris, parce que ce n'est pas ça le style parisien. Si on est en Afrique, on essaie d'acquérir notre inspiration en fonction du style vestimentaire et des matériaux africains. Donc, en gros, il faut s'adapter à tout milieu. Un créateur, c'est un architecte, c'est un penseur. Nous avons cette responsabilité-là de faire, de créer, de créer des modèles, des choses et on a cette responsabilité de faire en sorte que nos créations soient appréciées et d'expliquer par nos créations aux consommateurs que c'est ce qu'il faut en fonction du milieu, en fonction de la tendance. Lorsque je suis en Afrique, je travaille beaucoup avec du pagne. Je travaille beaucoup avec des matériaux africains parce que c'est les matériaux traditionnels et culturels là-bas. Ici, à Paris, en France, je travaille beaucoup avec des tissus. C'est vrai qu'il y a une forte population africaine ici également. Je travaille beaucoup avec du tissu occidental, du lin, du satin, de la soie. Voilà. Donc, c'est un peu de ça.
Tu évoques, Roland, les différents styles en fonction de la culture, en fonction de la saison, de la météo même, tout simplement, ça, du lieu, oui, où on est. Mais est-ce que les passerelles sont aisées à faire? Comment ça se passe, les passerelles entre les deux cultures? Parce qu'il y a l'intérêt quand même de pouvoir être styliste dans deux cultures, dans deux lieux différents. Et est-ce qu'il n'y a pas la tentation des passerelles? On sait par exemple que le wax, par exemple, est très à la mode, même pour tout le monde en fait. Hein, pas uniquement oui. dans la communauté africaine. Le wax est très à la mode. Il suffit de voir l'été, toutes ces créations en wax que tout le monde porte. Hein,
effectivement,
notamment.
Oui.
Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça qui sont un atout finalement de cette double culture?
Ben, je dirais oui et non en même temps, parce que je crois que c'est surtout beaucoup plus, cela dépend des différentes inspirations que nous pouvons acquérir en fonction de ces périodes-là. C'est, si on a une inspiration avec du tissu wax ou basin, ben, on essaye de créer ces modèles qui permettront à ces gros consommateurs, à ces fans du tissu africain de se sentir... voilà, nous avons des événements, par exemple. Ici, nous avons la Paris, nous avons les Fashion Week, nous avons les Fashion Show. Les Fashion Week, nous regardons le type de clientèle qui assiste aux Fashion Week. C'est des clientèles assez sélectives qui sont prêts à miser gros sur des tenues assez spéciaux, des modèles
extravagants même.
Voilà,
hein,
extravagants.
On a des modèles extravagants dans ces créations.
Effectivement, des modèles chez nous, ça s'appelle les modèles uniques. Des modèles souvent on utilise, souvent ils posent des questions. J'ai vu. Je ne parlerai pas de mode africaine et de mode occidental, parce qu'on a vu des grands couturiers comme Dior, Yves Saint-Laurent, Gaultier faire des tenues avec des robes, des plumes, faire des tenues avec voilà, des feuilles, faire des tenues, des créations extravagantes avec
donc,
du
si tu
plastique.
Veux,
du...
La mode, c'est un langage et tu penses que ce langage, il est un.
Voilà, c'est la création. C'est, on va dans le terme de la création parce que lorsqu'on crée, on peut créer à partir de... Moi, j'ai vu une tenue avec faite de disques, de vinyle, de disques vinyle. Donc, c'est de la création, c'est de l'inspiration et... voilà, souvent c'est les modèles qui sont utilisés pour les des galas qui peuvent être utilisés pour des publicités pour des comment ça s'appelle, pour c'est les modèles d'exposition.
Mais voilà. Si tu permets, Roland, et moi je vais comme ça jouer ce rôle là aujourd'hui, je veux te re-questionner sur l'intérêt et la place, par exemple, que la société africaine de manière générale donne à ton travail. On sait qu'ici en Occident, les stylistes, ils sont aujourd'hui, ils ont leur place, ils ont leur statut, ils sont même reconnus, c'est des personnes respectées, il y a des noms. Mais sur le continent, lorsqu'on voit par exemple des choses comme je t'en ai souvent parlé, où on voit nos magistrats s'habiller comme les Occidentaux du 14e, 15e siècle, on voit nos chefs d'État, on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils ne connaissent pas les stylistes africains? Est-ce qu'ils ne connaissent pas les hommes de culture en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne les écoutent pas? Est-ce qu'ils n'écoutent pas leurs propositions? Est-ce que ces hommes eux-mêmes ne font pas du marketing de proximité ou pour aller auprès des chefs d'État africains et de leur dire... Il est important que la culture africaine ait une visibilité propre à elle. Toi qui es dans le domaine, comment est-ce que tu vis la situation? Vraiment, est-ce qu'il y a cette symbiose-là entre les créateurs et la société africaine? Et s'il y a difficulté, comment est-ce qu'on pourrait pallier à cette difficulté-là?
Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a des concepts universels qu'on ne peut pas changer dans tout secteur d'activité, même dans la prononciation de certains mots, comme... En français, danse, en anglais, dance, en français, café, en anglais, coffee, ça se ressemble. C'est les termes universels, les concepts universels. C'est pareil dans la mode. Lorsqu'on parle d'une tenue militaire, c'est voilà, tenue militaire en Afrique, tenue militaire en France, tenue militaire aux États-Unis, tenue militaire en Syrie, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'une tenue de santé, une blouse de santé, la blouse de santé en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout, c'est la même chose. C'est cette blouse blanche-là, c'est universel. Ça, on ne peut pas changer. Ça appartient à personne. C'est, voilà, donc il y a des concepts comme ça dans la mode. Tenue militaire, blouse de santé, toge de magistrat ou de... Voilà, c'est pareil. Maintenant, il y a ces pays-là, il y a ces cultures, je ne dirais pas ces pays, qui ont leurs habits traditionnels. On parle, par exemple, des Émirats Arabes Unis. Alors, moi, j'étais, par exemple, voilà, j'ai fait une exposition à Dubaï. Lorsque vous allez à Dubaï ou à Abu Dhabi, ils ont ce qu'on appelle le costume traditionnel. Dans les administrations publiques, le ministère de la Justice, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, ils s'habillent à ce qu'on appelle la djellaba. C'est la grande robe blanche avec le turban, machin sur la tête. C'est ça l'équivalent du costume. Costume chez nous, c'est veste, cravate, voilà. C'est ce qu'ils portent là-bas. C'est cette robe à Dubaï qu'ils portent dans des administrations. À la limite... même nous, des personnes comme nous, Français, Africains, qui allons dans ces pays, nous sommes obligés...
Lorsque nous arrivons là-bas,
d'adopter...
De nous conformer
parce que... pas parce qu'ils nous l'imposent, non. Parce que je me suis retrouvé dans cette situation, c'est le dress code. Et en même temps, c'est gênant pour vous de vous sentir différent de tout le monde. Tout le monde est en robe, en djellaba, mais vous apparaissez, vous arrivez avec une veste, cravate, vous vous dites, ben, déjà, ils vous regardent, ils se disent, ben, lui, voilà. Ben, ils ne vous imposent pas, ben, c'est ça leur costume traditionnel.
Mais justement, Roland, tu nous décris là les Émirats arabes. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'en Afrique, on ait par exemple le même phénomène? C'est-à-dire que, et tu peux convenir avec moi, lorsqu'on arrive au Gabon, lorsqu'on arrive à Libreville, lorsqu'on arrive au Cameroun, à Yaoundé, à Douala et dans les autres capitales africaines, généralement, on se croit être à Paris.
Je comprends.
On se croit être à Paris parce que le vestimentaire est pareil, ou alors peut-être qu'il est d'une saison en retard, mais il est presque pareil. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas... C'est toujours cette démarche identitaire qui ne signifie pas enfermement, mais qui signifie, n'avons-nous pas notre touche à nous?
Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il faut reconnaître que l'Afrique a une jeune histoire. L'Afrique a une histoire... l'histoire de l'Afrique n'est pas très... Voilà, on parle de quoi? De 100 ans, de 60 ans, de 80 ans, de 60 ans d'histoire, l'indépendance. L'Afrique n'est pas encore à ce niveau-là. L'Afrique a influencé encore par ses grands noms occidentaux. Ces grands noms comme McQueen, Dior, Gaultier, Chanel, Roland, Saint-Laurent. Nous sommes influencés encore par ces cultures-là, ces marques-là. Il faut du temps. Il faut du temps à l'Afrique d'avoir... déjà, on a un style à nous qui est traditionnel, oui, mais ce style se limite à un niveau bien précis. Mais l'Afrique est en train de rentrer dans le modernisme. Et le modernisme, il vient de l'Occident, il vient de l'Europe. Donc, vous comprenez que nous sommes encore sous cette phase-là de nous référer à ce qui se passe en France, aux États-Unis, parce que nous sortons d'une histoire qui n'est pas forcément moderne.
Moi, je conviendrai avec toi que l'histoire n'a peut-être pas été glorieuse dans les 100 dernières années. Et je ne sais pas si je conviendrai avec toi que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, parce qu'il y a aussi ce regard-là qui dit que l'Afrique, c'est plutôt l'histoire de demain. L'Afrique, c'est l'histoire en train de se faire, c'est l'histoire, c'est le futur, c'est l'avenir. Mais est-ce que ce n'est pas simplement le fait que nous avons en Afrique encore aujourd'hui, et nous sommes en train là de faire l'échange, un complexe qui nous fait croire que nous n'avons pas notre mot à dire dans l'élaboration du monde de demain?
Nous avons notre mot à dire, mais comme je le disais, pour le moment, je crois que la référence, c'est l'Europe, l'Occident, parce que si nous connaissons les nouvelles technologies aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons le téléphone, nous avons l'écran de télévision, nous avons tout ça, vous comprenez que c'est pas forcément des mauvaises choses. Le monde, il avance. Le monde, il avance et ils sont un peu comme le repère, parce que toutes ces grandes créativités et avec ces, comment ça s'appelle, ces, ils ont ces moyens-là de, voilà, nous avons le voyage sur la Lune. Vous comprenez que ben, s'il n'y avait que l'Afrique, on ne serait pas à ce niveau-là. Donc pour nous, c'est un peu des repères. Pour le moment, je crois qu'il serait mieux que les choses se passent comme ça. Maintenant, après, peut-être que l'Afrique pourrait se créer son style.
Alors justement, moi, je voulais revenir sur une notion peut-être plus large au démarrage, mais finalement, on va retomber en plein dans notre thématique. C'est finalement la façon dont je m'habille dit des choses de moi.
Oui.
La façon dont je pose mon style,
oui,
donne une identité.
Effectivement.
D'ailleurs, quand on va à un mariage ou que sais-je et qu'on met un costume de fête, c'est bien dans une autre posture que nous sommes que dans le habituel. Ou quand je vais au théâtre, ou peu importe, dans les endroits où je choisis une tenue différente de ma tenue habituelle, il y a comme un côté « je rentre dans un personnage ». Voilà. C'est tout ça pour insister sur cette notion de le style dit de l'identité, tout de même, non. Enfin, je sais pas, il n'y a pas forcément de question derrière tout ça, mais il y a cette
le style parle de l'identité, et l'identité, elle est nécessairement historique. Et si elle est historique, ça signifie qu'elle véhicule nécessairement une mémoire dont, comme Roland lui-même il le dit, on ne peut pas couper la question du style, de la mode, de notre histoire.
Et de l'appartenance aussi, et de l'appartenance. Comme, si je m'habille comme les gens que je fréquente, c'est pas par hasard, c'est aussi des milieux, des socioculturels ou autres. Les vêtements disent beaucoup, et il suffit de voir, quand on voit la façon dont quelqu'un est habillé, on peut imaginer. On peut se tromper, mais on
arrive
peut imaginer
à déceler
des choses.
Moi, par exemple, avec ma petite expérience, lorsque je regarde un style vestimentaire, je peux déceler, à partir du style vestimentaire d'un individu, son secteur d'activité. Je sais reconnaître que telle personne est un artiste, musicien, ou telle personne travaille dans tel secteur d'activité en regardant son style. Regardez par exemple, l'accoutrement, les banquiers, les banquiers, c'est, costume, classe, gilet, machin, c'est le symbole de la classe, et la classe, c'est...
C'est l'argent.
C'est l'argent.
C'est l'argent.
Donc, voilà. C'est l'image qu'on a des banquiers, c'est cette classe-là, parce qu'ils représentent l'argent, ils représentent le chic, et puis...
Voilà. C'était bien dans la représentation générale que je disais la classe, c'est l'argent, parce que c'est pas forcément ce que je vais
défendre. Pas forcément.
Non, moi, je pense que... Je suis d'accord qu'au départ, c'est ça, mais on sait aussi que le djinn, par exemple, il a muté de cet instrument d'ouvrier, il est devenu ce qu'il est devenu, et que les histoires sont parfois... retourner comme ça, on voit parfois dans des modes, si on regarde un peu les clips à la télé, parfois on voit des jeunes qui, au lieu d'être en, on va dire, tenue très relaxe, parfois se mettent en costume pour des clips, pour faire classe, ainsi de suite. C'est totalement complexe. Mais moi, je me pose la question, et si j'ai convié Roland ici, c'est parce que je me pose... Moi, je reste toujours cohérent avec moi-même, je me pose toujours la question de savoir, dans ce monde mondialisé, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. J'ai le sentiment, et peut-être que j'ai tort d'avoir ce sentiment, peut-être que je ne suis pas suffisamment au courant, j'ai toujours le sentiment que l'Afrique est subie, parfois là où elle doit être acteur, et je me dis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Lorsqu'il parlait par exemple des tenues, il a dit qu'il y a des tenues universelles. Je vais revenir
les
dessus.
Les styles.
Les tenues militaires... les tenues des magistrats. Moi, je ne comprends pas, et depuis le Cameroun, je ne comprenais pas pourquoi les magistrats Yaoundé portaient une toge comme les juges de l'Europe du XVIIe siècle, avec vraiment cette, je ne sais pas comment vous appelez ça, ce bonnet-là qui est souvent, devait faire des cheveux blancs.
Et la perruque, oui.
Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas, est-ce que même ils ne voient pas que c'est un problème, ou alors... ils se disent que désormais, ils ont convenu de désormais penser le gros à partir de ce repère-là. Et s'ils ont convenu de faire ça, quelle est la pertinence? Est-ce que dans nos villages, nos parents ne délibéraient pas? S'ils ne délibéraient pas, comment est-ce qu'ils procédaient? Pourquoi avoir besoin de s'assimiler autant? C'est la question que je me pose. Je ne suis pas en train de dire que lorsque nous venons à Paris, lorsque nous sommes dans des lieux de rencontre avec les Occidentaux, nous ne devons pas nous fondre. Moi, je suis à Verneuil aujourd'hui. J'essaie, dans la mesure du possible, de me fondre. C'est, ça fait partie de ce qu'il appelait l'adaptation, l'acclimatation, mais c'est véritablement problématique pour moi. Et c'est tout le sens de mes questionnements qu'il ne pense
la
pas
perruque,
que
la perruque, c'est peut-être un plus. La perruque sur la tête des magistrats. Mais lorsque je vois le style, c'est plutôt... Moi, je vois plus dans le contexte anglo-saxon, parce que, regardez, la perruque, ça vient des pays anglophones, des pays européens et américains, enfin, pas américains, c'est-à-dire dans d'autres pays. Ce qui est universel, c'est la toge. La toge, les acteurs de la justice, que ce soit en France, en Afrique, aux États-Unis, ont une toge de magistrat. La Cour suprême, je crois, c'est rouge, avec, Et les avocats et les juges, elle est noire, avec ce petit blanc au milieu. C'est ce qui est universel. Maintenant, la perruque sur la tête, c'est plus anglophone, je vois,
mais,
anglo-saxon.
Mais Roland, tu conviendras avec moi.
C'est peut-être un plus dans leur culture anglophone et le Cameroun, parce qu'au Gabon, ils ne portent pas cette perruque-là. Ça n'existe pas.
Bon,
au Sénégal, en Centrafrique, ça n'existe pas.
Tant mieux, c'est déjà un chemin, mais tu conviendras avec moi.
Et n'oubliez pas que le Cameroun est un pays anglophone.
oui, il y a une partie du Cameroun qui est anglophone, je dis.
Voilà.
Tu conviendras avec moi, par exemple, lorsqu'on va en Afrique de l'Ouest. Il y a quelque chose qui paraît comme un style de l'Afrique de l'Ouest et qui fait relativement la fierté de l'Afrique. Mais parfois, lorsqu'on se retrouve en Afrique centrale, dans certaines capitales, on est quelque peu dépaysé. Je vais décrire la chose. Vous voyez parfois des gens en costume, et pas n'importe quel costume, des costumes tout coton, vraiment, à la limite des costumes d'hiver, mais sous les tropiques. Mais ils le font simplement parce qu'il faut porter le costume. Il faut dire, et on se dit, et quand vous les voyez, parfois vous retrouvez des costumes qui ont des marques de sueur partout, parce que ça chauffe, ça sue, et on se dit, mais est-ce que ces individus qui sont parfois obligés parce qu'ils veulent aller au ministère, parce qu'ils vont dans des administrations, est-ce qu'ils n'ont pas compris que le vêtement est un langage et qu'en fonction de l'écosystème, on doit porter le vêtement adapté? Qu'est-ce
on
qui se passe?
On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction des climats et des saisons, on crée et on porte un certain type de vêtement. En fonction des saisons, en été, vous ne verrez pas des Parisiens en costume sous le
soleil. En débardeur, non, en hiver autant pour moi.
On revient en fonction des saisons. Peut-être que certaines capitales africaines ne sont pas très bien. Enfin, pas, je ne dirais pas les capitales. Certains citoyens ne sont pas très bien informés de
ce que le
du moment du vestimentaire, c'est-à-dire du type de période à laquelle il faut porter certaines tenues. Et puis, vous savez que c'est pourquoi je vous ai dit en Afrique, on a besoin du temps. Nous avons quoi, 60 ans d'histoire. On a besoin de temps pour comprendre tous ces aspects de la mode. Tous ces aspects de la mode. Ici, je dirais 70-80% de la population européenne connaît les aspects de la mode. Ils savent à quel moment porter ceci, à quel moment, à la limite, ils se créent même certains styles à eux. Mais en Afrique, il faut encore du temps pour que nous comprenions. Avec le temps, ça va se faire. Avec le temps, ça se fera. Et je crois qu'on sera adapté à toutes ces saisons-là.
C'est peut-être aussi, et ça pose une question autour de l'apparence, l'attention qu'on porte à notre apparence. Certaines sociétés sont plus axées que d'autres sur l'apparence et les codes liés à cette apparence. Certains milieux aussi sont plus attachés, effectivement, quand on parle de la magistrature tout à l'heure. C'est vrai que la magistrature est très attachée à la codification des vêtements.
Des règles.
Beaucoup plus que dans le bâtiment, par exemple, en termes de milieux socio-professionnels. Y a une histoire aussi, oui, de vouloir exprimer des choses peut-être trop évidentes, de vouloir trop exprimer ou d'attacher une
trop grande importance à ce qu'il y a de soi.
Voilà, à l'apparence même, oui. C'est ça, c'est peut-être parce que c'est, quand on parle de style, c'est aussi qu'est-ce que je renvoie aux autres. Si je veux être sérieux, je mets une chemise, une cravate.
Effectivement.
Si je veux au contraire donner l'impression que je suis cool, détendu, et ben je vais peut-être mettre un sweatshirt et un t-shirt. Vous voyez, c'est aussi quel message je veux envoyer. J'imagine que quand on est styliste, ça fait partie des choses qu'on pense, quoi. Comment je vais m'habiller aujourd'hui, parce que ce que je veux renvoyer éventuellement.
Raison pour laquelle cette expression « l'habit ne fait pas le moine », elle est contestée. Elle est contestée à moitié, oui. Ça, c'est... oui, c'était... en Inde ou en Asie, on le disait, parce que les moines, ils avaient tous
cette même tenue, là.
Voilà. Mais aujourd'hui, elle est contestée parce qu'en fonction de notre accoutrement, on est soit pris au sérieux, peut-être pas. En fonction de notre accoutrement, dans certains milieux, on nous porte un certain nombre de jugements. Il y a des jugements qui sont portés, voilà. C'est, pour moi, aujourd'hui, je me dis, dans la société moderne, il faut tout simplement être habillé de manière propre et présentable. De façon propre et présentable, pas forcément avoir une marque, c'est-à-dire une chemise polo à 500 euros. Pas forcément nécessairement avoir une montre Gucci à 5000 euros. Ben, il faut être propre et présentable, voilà, tout simplement. Et à partir de notre accoutrement, on sera accepté dans certains milieux et peut-être pas, quoi.
Quand on parle culture africaine, parce que on revient sur ces fameux chemins sur lesquels nous prenons quelques détours, mais pour notre plus grand plaisir. Quand on parle de culture africaine, alors moi j'ai cette image-là et vous me contesterez avec grand plaisir quand vous le souhaiterez. Moi j'ai plusieurs images sur les tenues. Oui. Effectivement, on a évoqué tout un tas de codes, notamment les codes occidentaux, les codes voilà, administratifs. Moi j'ai deux images. La première, alors c'est plutôt au Congo je crois, c'est les sapeurs notamment. Toute oui. cette génération de sapeurs qui met une attention très appuyés sur la façon de s'habiller, qui ont un style propre à eux, pour le coup, ou en tout cas combiné, qui n'est pas un style européen ou occidental, qui est vraiment un style mixte, on va dire, d'imprégnation. Et d'un autre côté, j'ai toujours trouvé, et ça c'est une fois de plus ma représentation, hein, que parfois, et même dans les institutions, on trouvait une espèce d'extravagance dans la tenue. Voilà.
Regardez bien, peut-être que vous avez oublié, l'histoire des sapeurs n'est pas une histoire africaine. C'est beaucoup plus une histoire british, d'anti-british. Regardez l'époque avec les films Sherlock Holmes, Londres, l'Angleterre ancienne, avec ses petits gilets en bas et... ce grand long veston en haut et puis une petite montre qui et des lunettes voilà c'est pas d'origine en Afrique,
la sapologie,
oui, la canne, ça vient pas d'Afrique,
ça a été très réapproprié
par contre,
les couleurs utilisées,
par contre ces Africains d'origine du Congo en font un peu trop sur le jeu des couleurs, c'est-à-dire ils en ont fait pour attirer l'attention, ils ont effectivement, copier le style british ancien et ils ont mis, comment dire, ils ont mis une, ils ont ajouté une touche, voilà, c'est-à-dire avec des sur des couleurs.
Moi, je proposerais une lecture qui partira des références que Roland nous donne. Et moi, je savais pas, mais lorsqu'il l'explique, je comprends. Si justement la sapologie vient de l'Angleterre. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est cette capacité de réappropriation-là. Et je suis à la fois gai de savoir que cette réappropriation... Parce que quand moi je vois la sapologie, je vois cette espèce de... Il y a une dynamique, il y a de la vie et puis il y a de l'exubérance africaine, par exemple, dans les couleurs. Et tout ça, pour moi, devient un langage philosophique. Dans un contexte où on connaît le Congo, où on connaît même toute la région avec les Bantous, l'Afrique centrale, où les gens sont quand même dans des difficultés matérielles assez poignantes, assez fortes, il y a dans cette attitude, au-delà vraiment du côté, on va dire, utopique, quelque chose qui veut dire on peut aller au-dessus, on peut être au-dessus de tout ça, on peut être bien, on peut être fier de nous. on peut se tenir bien. Peut-être que par certains flancs, ça prête à, on va dire, à de la folie ou alors à de la mauvaise, mauvaise vantardise. Mais moi, c'est le sens que je perçois dans ce souci-là, un souci de bien paraître, un souci de bien se faire voir et puis la gaieté même. Parce que n'oubliez pas, à côté de la sapologie, il y a la rumba.
C'était la haute aristocratie ancienne.
Il y a la rumba. C'est ce peuple-là de la rumba, de... Comment on a appelé ça? De cette belle musique Congo qu'on connaît et qui anime toute l'Afrique et parfois toute l'humanité. Aujourd'hui, on voit en Europe, avec les Singila et toute la vague des Congo, je ne sais pas comment, il y a les derniers là, les maîtres Gims qui sont de parents qui viennent de là et qui animent la France. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une filiation avec ce côté-là et je trouve ça intéressant. Moi, je porte plutôt un...
À l'origine... les sapeurs Congo l'ont fait. La sapologie est un peu synonyme d'avoir de l'argent. D'avoir une chaussure à 1000 dollars, d'avoir une veste, une cravate à 500 dollars, c'était synonyme d'être le mec qui a beaucoup d'argent avec des marques au corps. Parce que même lorsqu'on regarde l'histoire aristocratique british ancienne, c'était des grands aristocrates de cette époque qui étaient vraiment, vraiment avec ce style raffiné. Donc, ils ont repris la chose. Mais comme je disais, là où ils ont mis un plus, c'est plus, beaucoup plus sur le jeu des couleurs. Et le jeu des couleurs, apparemment, ça marche parce que c'est justement ce qui attire l'attention. Le mariage est différentes couleurs, veste rouge, pantalon bleu, chaussures noires.
Avant de clôturer, moi j'ai vu par exemple ici en France, il y a un représentant très connu, c'est un intellectuel originaire du Congo, Alain Mabankou, qui est un sapologue officiel. Et il ne manque pas une occasion lorsqu'il est invité dans une radio, dans une télé, de véritablement se présenter comme porte-étendard de cette sapologie-là. C'est plus simplement le bourgeois vantard, c'est le penseur qui porte. Tu vois, s'il faut terminer, on est parti de la mode, on revient à quelque chose, des expressions pour dire...
C'est la mode, tout ça, justement.
On n'est pas sorti des chemins et des sentiers de la pensée africaine. Voilà qu'on a débouché sur la sapologie. Qui sait si demain, nous aborderons la sapologie de façon plus dense.
Faudra me prévenir, j'aurai une tenue adaptée.
Naturellement.
Ce qui est très important pour faire de la radio. Roland, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Est-ce qu'on peut retrouver quelque part, je ne sais pas, des exemples, des travaux que tu mènes, des créations que tu as réalisées? Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça?
Comme je disais, j'ai eu une série d'événements récemment à Paris et il y en a d'autres qui sont en cours. J'ai un site internet qui est en train d'être réaménagé. Par contre, j'ai un Instagram dans lequel vous pourrez trouver toutes mes créations. Mon Instagram, c'est le nom tout simplement Keaso Angom Roland, collé. Keaso Angom Roland, c'est K-E-A-2-S-O R-O-L A-N-D, A-N-G-O-M-E. Là, c'est Keaso Roland Angom. Ça a été renversé, là.
D'accord.
Voilà. Keaso Angom Roland, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est mon Instagram. À part ça, j'ai des événements en cours, notamment l'été qui arrive. J'ai une présentation de collection qui se fera certainement à l'ancien site, à l'hôtel Pullman. Et je communique beaucoup sur mon Instagram en attendant que le site internet soit aménagé. Voilà.
Très bien, merci beaucoup à toi Roland.
Merci.
Nous t'avons laissé le choix de la chanson, de la musique de sortie. Tu as choisi Cesaria Evora avec le morceau Ingrata. Quelques mots sur ce choix?
Oui, parce que je suis créateur de mode, Et j'aime bien ces moments de réflexion, des périodes calmes. Et c'est une musique qui m'inspire beaucoup. Une artiste, parce que ce n'est pas la seule chanson de Césaria que j'adore. La musique de Césaria, elle est assez calme, douce et inspirante. Et il m'arrive de trouver une inspiration lorsque j'écoute. Voilà.
Eh ben merci pour ce choix.
C'est moi qui vous
de
remercie.
Fin d'émission. Merci Tinément.
Merci et à bientôt.
Um dia, se Deus quiser. Se Deus quiser.